Aujourd'hui, la masterclass de Kamel Menour avec Arnaud Laporte.
Nous ouvrons à présent la masterclass France Culture de Kamel Menour enregistrée au Grand Palais à la FIAC 2019. Pour rappel, c'est une collection d'émissions qui a pour vocation de savoir comment un artiste construit une œuvre, de l'idée de départ jusqu'au moment où l'artiste considère l'œuvre comme achevée. D'une masterclass à une autre, il y a un ensemble de questions communes. On accueille des écrivains, des cinéastes, des plasticiens, des musiciens, des artistes de toutes disciplines. Mais évidemment, ce jour, c'est un jour un peu particulier puisque notre invité étant un galeriste, les questions seront souvent différentes, mais elles seront, on va le voir, toujours en lien avec le travail et avec la création. On ouvre généralement ces masterclass avec quelques repères biographiques. Mais concernant Kamel Menour, hormis le fait que vous êtes né en 1965, on ne sait finalement pas grand-chose de vous avant le moment où, à 27 ans, vous commencez à vendre des lithographies, puis 34 ans, l'ouverture de la galerie, on y reviendra. Mais il y a une question qui revient toujours avec nos invités, c'est celle de la vocation. D'où elle vient, votre vocation de galeriste, Kamel Menour ?
Bonjour Arnaud. Bah, écoutez, cette vocation, elle est venue de manière assez accidentelle. Moi, j'ai fait des études d'économie, et donc j'étais pas du tout destiné à me projeter en tant que galeriste. Mais en fait, les lithographies que vous évoquiez m'ont fait penser que ce monde qui était complètement étranger et inconnu à moi, le monde de la culture et de l'art, devenait une obsession au fur et à mesure. Et donc j'ai énormément visité, mais j'ai énormément lu. Et j'ai beaucoup regardé pour apprendre.
C'est-à-dire que c'était un hasard, les lithographies, vous auriez pu vendre tout à fait autre chose et passer à côté de cette villa.
J'étais, comme job d'étudiant, j'étais vendeur d'hamburgers dans une des enseignes type McDo, je ne me rappelle plus laquelle c'était. J'étais démonstrateur télé en grande surface et j'ai vendu des lithos en porte-à-porte comme font beaucoup d'étudiants. J'ai découvert ce monde qui était complètement enivrant. Parce que c'était un monde qui était, je vous le disais, étranger, mais qui me nourrissait et qui m'élevait en tant que personne.
Dans votre famille, dans votre enfance, votre adolescence, il n'y avait pas de figure proche qui s'intéresse à l'art, à la culture, au sens des humanités, on va dire ?
Non, en fait, vraiment, le seul souvenir de la culture que j'avais quand j'étais gamin, c'était les reproductions qu'il y avait dans les boîtes de chocolat. Je me rappelle bien de ce souvenir qui me revient. Mais aussi les une ou deux visites que j'avais fait au musée du Louvre quand j'étais en CM1, je crois. Donc c'est des souvenirs extrêmement lointains, mais qui sont des choses qui, après coup, m'ont fait penser que c'était mon monde. Ça me paraissait totalement évident de vivre dans cet univers, côtoyer les artistes, les collectionneurs, les gens des musées. Donc c'était formidable pour moi, même si au début j'étais extrêmement complexé, parce que je me disais... ce monde est quand même assez fermé. Donc j'ai beaucoup regardé et j'ai appris par cœur les attitudes, les comportements. J'ai lu beaucoup de biographies et aujourd'hui je suis devenu un des galeristes.
Mais c'est vraiment une imprégnation longue, lente, on y reviendra peut-être, mais il y a quand même quoi ? Il y a un moment, une révélation, une épiphanie, Kamel Menour, vous vous dites... C'est ce monde-là qui m'attire, c'est celui-là que je veux connaître, c'est dans ce monde-là que je veux vivre. Ça se passe comme ça ?
Oui, il y a des moments, il y a une sorte de cheminement et à un moment, ça devient une sorte d'obsession et une sorte de certitude. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais moi, j'étais persuadé que j'allais devenir galeriste. Je ne savais pas quand et comment, mais je pense que si je n'étais pas devenu galeriste, j'aurais mal tourné.
Est-ce que vous auriez pu choisir une autre forme d'art ? Est-ce que vous auriez pu devenir producteur de cinéma, patron d'un théâtre, éditeur de livres ?
Peut-être, mais en tout cas, je pense que c'est le visuel, c'est la création d'une forme, d'une pensée, de traduire quelque chose qui me permettait d'accepter cette sorte de challenge, que c'était vraiment de l'ordre d'acquérir, en tout cas, les codes, le vocabulaire. Moi, j'étais complètement néophyte, je savais pas.
Dans les biographies que vous avez lues, Kamel Menour, il y a des biographies de galeristes, parce que quand on est étranger à ce monde... C'est pas ce que c'est qu'un galeriste. C'est par les livres encore que vous avez découvert ça ?
Ben, on passe de Ambroise Vollard à Durand-Ruel. Alors on fantasme, on se dit c'est dingue de voir ces gens qui avaient des visions et qui ont imposé des écoles, des ismes, un goût. contre-courant. Donc moi, j'étais très, très loin de tout ça. Mais malgré tout, comme je suis quelqu'un d'extrêmement obsessionnel, je me disais que peut-être qu'un jour, même si ça paraît complètement ambitieux ou improbable, en tout cas impossible, mais je m'étais juré en moi-même que j'allais en tout cas tout faire pour réussir ce sort de fantasme de côtoyer les artistes.
Oui, mais un jeune homme qui découvre le monde de l'art, qui est fasciné par lui, il pense quand même, peut-être, souvent, qu'il pourrait être lui-même artiste. Ça vous a jamais effleuré, vous ?
Non, ça c'est une chance. En fait, je savais qu'il y avait une vraie césure entre l'artiste et le maillon indispensable qui est celui qui est une sorte de porte-voix. Et je pensais que j'étais sûr d'être ce porte-voix.
Mais est-ce que... Vous parliez tout à l'heure des complexes que vous pouviez avoir de pas connaître suffisamment et donc de vous nourrir. Est-ce qu'il peut y avoir ça aussi ? Est-ce que vous êtes peut-être un artiste empêché, Kamel Menour ? Vous n'avez pas osé ?
Ouais, peut-être. Je sais que quand j'étais gamin, d'ailleurs, c'était des choses qui me revenaient. Je dessinais souvent des fleurs. Et c'était aux grandes dames de ma mère qui se disaient « Bizarre qu'il dessine des fleurs. » Parce qu'un garçon, ça ne dessine pas des fleurs. Mais par contre, j'aurais pas prétendu en faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, dessiner des fleurs parce que je me projetais dans un autre univers, dans quelque chose qui était autre chose au niveau du territoire de pensée. Je sortais de... Parce que moi, j'aimais le foot, mais je dessinais des fleurs. J'étais un très bon élève. Et donc, le fait que je dessine des fleurs, ma mère, elle était intriguée. Elle se disait, mais c'est bizarre. Et quand 20 ans plus tard, je lui ai annoncé que je voulais devenir galeriste, pour ma mère, c'était une catastrophe. C'était trop abstrait. Être galeriste, qu'est-ce que c'est ? Être galeriste, pour elle, c'était... Elle se disait, mon fils, elle avait dit à une de ses amies, j'ai raté ma vie, en arabe, elle m'avait dit, j'ai raté ma vie, mon fils, il va vendre des cadres. Donc pour ma mère, c'était quelque chose qui était... c'était pas l'aboutissement. Elle avait fait beaucoup d'efforts pour ses enfants. Tu vois, l'idée de se projeter, son fils doit être médecin ou avocat ou homme d'affaires. Donc, mon fils allait vendre des cadres. Donc, pour elle, elle avait raté sa vie parce qu'elle considérait l'art comme quelque chose, même si elle ne savait pas l'histoire de l'oreille coupée, tu vois. Mais elle se disait que ce n'était pas un métier.
Alors, justement, alors peut-être pour les mères des futurs Kamel Menour, cette émission est faite. Il va falloir qu'on la diffuse pour savoir ce que c'est que ce métier de galeriste. Vous fêtez cette année les 20 ans de votre galerie. Enfin, le premier jour d'ouverture, c'était mai 99, oui. Une expo de Jan Sodeck. Vous avez quel souvenir de ce jour-là, le premier jour où on ouvre le verrou et où on attend ?
Moi, j'ai un souvenir très, très attendri. Moi, j'ouvre la petite galerie de la rue Mazarine en novembre 98. Avec aucune idée de la programmation que j'allais pouvoir imaginer. En tout cas, c'était la galerie de François Mitaine, qui était ce type qui faisait d'ailleurs votre métier, qui était chroniqueur AFG à l'époque. Je ne connaissais pas et en fait, il fermait sa galerie parce que c'était un peu difficile. Et il me permettait de reprendre le bail de cette petite espace contre 70 000 francs de l'époque. Et donc, c'était une sorte de tontine chinoise. Il fallait que je réunisse 70 000 francs. Pour qu'il me présente le propriétaire des murs. Et donc, assez rapidement, j'ai fait ce truc-là. Mais après, il fallait trouver sa programmation. Et quand tu n'as pas tellement de culture ou d'éducation, d'instruction, au début, moi, j'ai montré des peintures de la butte Montmartre. C'était le niveau que je pouvais montrer. Donc, la galerie, au début, n'était même pas identifiée Galerie Kamel Menour. C'était un espace où il y avait des petits chromos comme ça. Et au fur et à mesure, donc pour répondre à votre question, Jan Sodeck, c'est ça. C'est en janvier, je suis allé à Prague. J'avais trouvé un livre de l'éditeur Tachène, d'ailleurs. Comme quoi, démocratiser la culture, ça valait 50 francs à l'époque, ce livre. J'avais vu ses photos. Il y avait le fax à l'époque dans le livre de Tachène. Je lui ai envoyé un fax et je suis allé le visiter avec ma femme. Et j'ai ramené quelques photos et on a démarré notre collaboration. Donc finalement, parfois, c'est des intrusions comme ça où tu rentres dans l'univers de quelqu'un et t'apprends. Et j'ai beaucoup lu, beaucoup lu Yann Saoudek. Pour moi, c'était le sentiment que j'avais. Je m'étais dit, ce jour, on avait démarré en mai 99, à moi de jouer.
Alors, à vous de jouer, et vous décidez, les premières années en tout cas, d'axer la galerie sur la photographie. C'était un goût personnel, c'était le sentiment qu'à ce moment-là, ça prenait de l'importance et que ça allait vous distinguer des autres.
En 99, il y avait pas encore cet engouement du médium photographique. Il n'y avait pas le salon Paris Photo. Mais moi, j'achetais beaucoup de livres de photos parce que finalement, les photos, c'était des fenêtres qui permettaient de voir quelque chose de visuel et de très digeste. Moi, j'avais pas du tout la culture de l'art minimal ou de l'art conceptuel. J'étais très loin d'Yvon Lambert. Hein. Et donc, ces photos, en fait, ont participé à mon démarrage. Mais finalement, j'ai eu la chance de me dire que ça devenait, en fait, il y a eu un engouement de la photo. Il y a eu le salon un ou deux ans plus tard, Paris Photo, on a participé très vite. Et je me suis plus dans ce médium, parce que j'allais rencontrer Annie Leibovitz, Larry Clark, Araki, Peter Beard. On a montré aussi des photographes morts, Pierre Molinier. Donc, je faisais des expositions monographiques comme ça. Donc, on en faisait 4, 5, 6 par an, avec des livres. On faisait des posters.
Parce que dans ce métier, Kamel Menour, pour revenir vraiment aux fondamentaux de cette émission des Masterclass de France Culture, c'est le travail. Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, il s'agit de faire entrer les artistes dans la galerie. Alors là, il y a encore aussi deux cas de figure. Il y a les artistes débutants qui n'ont pas de galerie, il faut les trouver. Et puis, on va en parler dans un instant, ceux qui sont déjà reconnus, qui ont déjà des galeristes et que vous aimeriez bien avoir. Mais alors, pour le faire dans l'ordre, les artistes débutants qu'il faut trouver, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que votre façon de faire, elle a beaucoup évolué au fil des années? Bon, sachant que votre agenda aussi, il est beaucoup plus rempli qu'à vos débuts, forcément. Comment on trouve un jeune artiste?
Un jeune artiste, je crois qu'un de mes premiers artistes, c'était Kader Attia. Qui m'a été présenté par des amis communs. On montrait à l'époque Larry Clark et des amis sont venus visiter l'exposition et m'ont parlé d'un certain nombre d'artistes dont Kader, qui était à Belleville à l'époque, qui était un tout jeune artiste, hein, mais il était aussi jeune artiste que j'étais jeune galeriste, donc finalement c'était devenu pratiquement une rencontre, une connaissance, et j'ai tout de suite vu que le type était extrêmement singulier. Il avait beaucoup de pertinence et de sa manière de voir les choses et d'envisager les projets. Donc on a démarré, on a balbutié ensemble, on a montré l'atelier clandestin à Miami, donc des choses, fallait être... Ce qui était certain, c'est que j'avais vraiment peur de rien et j'avais envie de permettre aux artistes de dire, finalement, un galeriste, je parlais de courroie tout à l'heure, c'est 1%, mais parfois ce pourcent, il peut ne pas faire exister. Et moi, je suis un accoucheur, donc quand l'exposition me paraît intéressante et pertinente, j'essaye et on y va.
Mais il faut faire quoi? Il faut faire la sortie des écoles, en tout bien tout honneur. Il faut aller visiter des ateliers. Comment on fait?
Il n'y a pas tellement de cahier des charges ou de mode d'emploi, mais donc il y a effectivement, je vous parlais du bouche à oreille, une personne qui te parle d'une autre personne. Il y a effectivement les journées portes ouvertes dans les écoles d'art. Camille Enrault, par exemple, hein, elle était dans une autre petite galerie et elle sortait des arts déco. Donc elle n'était pas Camille Enrault d'aujourd'hui. Hein, c'est Camille Enrault, au début, c'était une jeune artiste qui démarrait, qui faisait des petits films comme ça, qui étaient construits de manière empirique et avec des bouts de scotch. C'était rien du tout.
Mais qu'est-ce qui fait que, voilà, elle vous attire, après elle aura un lion à Venise pour de jeunes talents et puis ces grandes expositions qu'on a depuis. Qu'est-ce qui fait que Camille Enrault, vous repérez, vous vous dites « Ah, ça m'intéresse, j'aimerais travailler avec elle. »
Chez elle, il y avait une sorte de d'obsession dans sa manière de voir les choses et de décaler des projets et de dire des choses qui me paraissaient complètement invraisemblables ou que je ne comprenais pas au début même, presque. Et ça m'intriguait, je me disais... tu vois, par exemple, l'exposition qu'elle a fait sur les ikebanas. Je pense que quelque part, tu vois, il fallait pas avoir froid aux yeux d'imaginer un projet qui représentait la nostalgie de la poésie au travers des ikebanas. Il fallait entendre ce qu'elle pouvait dire au début, parce qu'au début, les projets c'est des petits dessins ou des conversations. Après, le formaliser, tu vois, c'est... Moi, je connaissais pas les ikebana. Je savais même pas ce que c'était qu'un ikebana. Et les artistes, ils t'élèvent parce qu'ils te permettent de voir autrement les choses, autrement le monde. Et c'est en ça que les artistes, c'est extraordinaire de les côtoyer, de leur possibilité de s'envisager dans un autre paysage, dans quelque chose qui est une chose même parfois que tu ne comprends pas.
Alors, pour celles et ceux qui écoutent en podcast, ils ont peut-être mis pause, ils cherchent Ikebana dans un dictionnaire. Ikebana, c'est une composition florale.
Une composition florale.
Qui vient du Japon.
Qui vient du Japon. Donc, c'est un art ancestral et qui permet en tout cas de formaliser une pensée, une tristesse, une nostalgie.
Un sentiment.
Ouais.
Et donc, effectivement, il y avait chez vous, dans votre galerie, rue Saint-André-les-Arts, cette exposition avec des livres en regard aussi.
Même pas.
Non,
ce qui est extraordinaire, c'est que...
Il y avait des textes, alors.
Puisqu'en fait, elle partait du souvenir qu'elle avait émigré à New York, elle avait laissé sa bibliothèque, et en fait, cette manière qu'elle pouvait envisager ce manque qu'étaient les bouquins, elle les traduisait par rapport à ses combinaisons. Mais tous les jours, on changeait les fleurs. C'était extraordinaire, parce qu'on était complètement dans quelque chose qui était interactif, et donc on avait une maître Ikebana qui venait changer les fleurs... Donc on a dépensé des fortunes de fleurs.
On va revenir évidemment sur la dimension économique, Kamel Menour, mais quand vous rencontrez un jeune artiste, vous avez envie de travailler avec, il y a un travail, il y a la rencontre humaine. Et ce sera le cas aussi pour les artistes plus connus, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de représenter un artiste dont vous aimez absolument le travail et pas forcément la personne?
Bah oui. Bah
c'est vrai?
Bah oui, ça existe.
Comment on fait?
Ben, on...
Faut dissocier.
Comment on fait? Ouais, surtout, d'abord, il faut... Moi, j'ai appris à ne pas avoir d'affect. J'ai appris, essayer en tout cas, parce que ça existe. Il y a de très grands artistes qui sont des monstres. Je ne vais pas en citer aujourd'hui, mais... Il y a d'ailleurs, souvent, les plus grands artistes sont des types extrêmement... tellement exigeants avec eux-mêmes, donc exigeants avec les gens, que parfois, on se dit, mais jusqu'à où? Parce que le curseur, jusqu'où tu le pousses? Mais l'art... L'art, c'est un absolu. Donc, quelque part, la création, elle impose d'entendre cette sorte de rage ou de feu. Donc, bien entendu, qu'il y a des artistes, même dans ma galerie, ils ne sont pas faciles tous les jours. Hein, mais il faut faire en sorte. Donc, moi, je suis devenu, après 20 ans d'expérience, une autre personne. Et j'ai appris, je parlais de ne pas mettre d'affect. C'est-à-dire de faire en sorte d'être extrêmement proche, de partager le pain ensemble, mais aussi, parfois, de mettre une sorte de distance... pour faire en sorte que ça puisse sortir.
Bah, il faut pouvoir rentrer chez soi le soir, raccrocher son costume de galeriste Kamel Menour et enlever la cravate.
L'uniforme.
Et pouvoir un peu oublier.
Essayer, parce que sinon, c'est impossible. Au début, moi, j'ai fait des erreurs parce que j'étais dans une relation affective avec certains artistes qui étaient trop proches, qui étaient celle de pratiquement d'un copain, de quelque chose qui était là. En fait, on est dans le cadre de la création, donc il faut garder une sorte de distance.
Mais un galeriste, j'imagine qu'effectivement, vous l'évoquez à l'instant, Kamel Menour, parfois c'est, il doit jouer le père de substitution, l'ami, le psy,
l'oreille, mais... avoir l'oreille.
Ouais, le gérant de bureau des pleurs.
Presque. Mais ou même le gérant de bureau des pleurs, mais aussi. Une sorte de frustration de ne pas voir le musée à un moment particulier, ou de savoir que son copain, l'artiste qui est au même niveau, a plus de résonance. De savoir essayer de considérer chaque artiste en tant que tel et de faire en sorte que dans ta galerie il n'y ait pas trop de susceptibilité. Toi, d'essayer d'être
avec des égos pareils.
Ah ouais, c'est
un travail à plein temps là.
À plein temps.
Est-ce qu'il y a des moments aussi où le galeriste que vous êtes sent que l'artiste peut-être fait fausse route, c'est peut-être un peu exagéré, mais s'engage sur une voie qui n'est peut-être pas la bonne, et est-ce qu'il faut le mettre en garde? Est-ce que ça arrive, ça?
On peut. Moi, dans le cas de figure, je considère que c'est toujours l'artiste qui a raison, mais parfois, je vais peut-être pouvoir dire que peut-être que... Le peut-être vient souvent, parce que c'est l'art de la diplomatie. C'est l'artiste qui a raison, mais considérer la création comme un acte extrêmement fort et ne pas être trop... d'engager un dialogue qui va faire que peut-être qu'il va prendre un tout petit peu de tes arguments pour soit accélérer, ou soit revenir, ou réfléchir, ou reprendre la page blanche. Mmh. Tu vois, c'est un dialogue, hein. C'est une relation qu'on a qui est constante et qui est permanente. Et donc, bah, voilà, moi je suis très disposé à être cette oreille. Mmh.
Pas trop dirigiste.
Surtout pas.
Alors, vous représentez aujourd'hui une quarantaine d'artistes, Kamel Menour. Donc, il y a la question du temps. Il y a une vie familiale qui existe. Les enfants. Il y a le football. D'autres, il y a quelques passions comme ça. Vous étouffez pas pendant que vous buvez quand je vous parle de foot, mais c'est important aussi. Soyons encore une fois concrets dans cette masterclass. Comment est-ce que vous définissez le calendrier des expositions dans vos galeries ? Est-ce qu'il y a des outils, des études, une cellule de veille ? Comment ça fonctionne ?
Il y a des rendez-vous avec... on est une quarantaine dans la galerie, donc on est...
Quarantaine de personnes,
de personnes qui travaillent,
voilà, et une quarantaine d'artistes.
Absolument, pratiquement le,
voilà, le même ratio.
Le même ratio. Et donc, en fait, on a des réunions dans lesquelles on va réfléchir à la programmation, à savoir qu'est-ce qui pourrait, par rapport à des périodes, être plus pertinent. Est-ce que en vis-à-vis d'une exposition dans telle ou telle institution, avec un petit temps de retard, on ne montre pas une exposition qui va être un contrepoint ? Est-ce que dans la carrière d'un artiste, à un moment particulier, on va accélérer ? Est-ce que il y a des artistes qui nous rejoignent, mettre plus de lumière ? Donc ça, c'est une réflexion que je décide pas tout seul, mais que j'ai avec Marie-Sophie Écher, qui est avec moi depuis 20 ans, avec Jessie Mansuy, avec Emma, avec Jeanne, avec Samy, avec toute l'équipe que nous formons. Et après, il y a des confrontations et on essaie de trouver la programmation la plus fluide ou la plus active. Là, par exemple, dans le cadre de la FIAC, on a considéré il y a un an et demi, qu'il fallait qu'on montre un artiste entrant chez nous, Hugo Rondinone. Et ça nous paraissait important de le montrer non pas dans un espace, mais dans les trois espaces. Et donc, ça fait un an et demi qu'on travaille avec Hugo pour présenter la meilleure exposition possible. Donc on a ces trois expositions et un très joli rainbow, un très joli arc-en-ciel sur la porte de l'école des Beaux-Arts.
Voilà. Est-ce que vous êtes très présent dans les expositions concernant vos galeries, très présent sur les choix des pièces montrées, sur l'accrochage, ou est-ce que au cas par cas, selon les artistes, il faut savoir être plus en retrait?
Non, je vais pas citer de nom, mais il y avait un grand artiste italien de la galerie, énorme, très important. Et donc j'avais toujours une sorte d'appréhension, qui est un artiste énorme, hein, très important, mais qui n'est pas le plus grand artiste pour l'accrochage. Et donc là, en fait, on a engagé une vraie conversation. Parce que, voilà, parfois, un mauvais accrochage peut faire peut même éteindre une œuvre. Tu vois, trop d'œuvres. Donc voilà, maintenant, je ne suis pas trop... Je dialogue et avec mes équipes aussi. Hein. C'est pas que je suis pas le seul à intervenir. J'ai des équipes qui sont donc tu vois, certaines personnes à la galerie qui vont accompagner un artiste et qui vont avoir. J'ai toujours un regard ou une présence, mais en tout cas, je délègue beaucoup.
On a évoqué tout à l'heure le souhait de représenter les artistes. On a évoqué le fait qu'il y a les nouveaux, ceux qui n'ont pas encore de galerie, mais il y a aussi les moins nouveaux, les artistes déjà reconnus, représentés par d'autres galeries qui viennent chez vous. Alors c'est un mercato qui est encore plus mystérieux que celui du football. Comment est-ce que un Daniel Buren, un Bertrand Lavier, un Anish Kapoor, un Douglas Gordon arrivent dans votre galerie? Je ne vous montre pas les coulisses parce qu'on ne les aura pas, mais ou alors si vous voulez parler d'un cas particulier, mais comment ça se passe? C'est un long travail, des approches délicates, il y a beaucoup de diplomatie? Pas fâcher les confrères ?
Non, surtout pas fâcher les confrères, parce que je sais exactement ce qu'est notre métier. Donc, y a ensuite des sortes de réunions de famille ou d'équipes qui se constituent. C'est-à-dire que, finalement, un artiste va parfois aller chez un tel pour rejoindre un autre artiste. C'est-à-dire être aimanté par une sorte de spectre ou de territoire plus favorable. Voilà. Dans le cas de figure de Buren, il quittait Marianne Goodman, qui est un galeriste qu'on ne présente plus, et il était seul. J'étais pas le seul à vouloir éventuellement l'inviter. Il m'a rejoint, mais il aurait peut-être pu aller chez un autre. Et voilà. Donc, tant mieux pour moi.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il vient chez vous alors ? et pas chez un autre. D'après vous, Kamel Menour, votre modestie dut-elle en souffrir ?
Non, je pense que...
Parce que c'est très tôt qu'il arrive chez vous. Hein.
Il y a une douzaine d'années.
Ouais. La galerie était encore jeune.
Très jeune, et en fait, moi, j'étais extrêmement, j'avais beaucoup lu Daniel Buren, donc je n'avais jamais rencontré Daniel Buren. Je l'ai croisé tout à fait par hasard par un commissaire d'exposition, je vous rappelle. On avait dîné ensemble, il n'avait jamais entendu parler de moi. Il avait beaucoup parlé de son travail. Il ne parle d'ailleurs que de son travail, puisque c'est un artiste absolu, engagé. Et je l'ai croisé tout à fait par hasard 6 mois plus tard, dans un aéroport. Je partais à la Biennale de Gwangju, et lui partait faire une exposition à Séoul. Et en fait, je m'étais dit que je pense que c'était un moment crucial, qu'il fallait que je sois bon, parce que Buren, tu le rencontres pas plusieurs fois, il est tout le temps en voyage. Et à l'époque, on était dans le même avion. Et il m'a rejoint, je lui ai proposé, je l'ai invité à prendre un café. Et en fait, il a passé 7 heures avec moi. Et je pense que pendant ces 7 heures, elles ont été extrêmement profitables pour moi. Et je lui ai dit une phrase, je lui ai dit, si j'étais vous, Buren, je ne retournerais pas chez un grand galeriste, j'irais chez Kamel Menour. Donc il s'est marré, il a ri, parce que je lui ai dit que quelque part, l'historique, il l'avait, mais qu'il avait la possibilité de me rejoindre et que j'aurais la chance de pouvoir l'accompagner dans les projets les plus incroyables. Donc on a fait Monumenta, on a fait un tas de choses qui étaient... Donc Buren était déjà extrêmement installé. C'est un artiste mondialement reconnu. Je pense qu'il a eu cette inconscience au début, ou cette sorte de risque, parce que quelque part, aller... Non, il m'avait posé une question. Il m'avait posé une condition. Il m'avait dit que... Un des points qu'il fallait que je puisse réunir, c'était que moi, je passais de la petite galerie de la rue Mazarine à une galerie. Et il fallait qu'il y ait cette galerie. Elle n'existait pas quand il m'a rejoint. Donc, c'est quand même extra. Je serais éternellement reconnaissant. Donc, il a accepté mon invitation alors que j'avais la petite galerie de la rue Mazarine. Mais je lui avais vendu l'idée que je cherchais.
C'était vrai ou pas ?
Non, c'est vrai. Et donc, je crois que c'est la première personne, quand j'ai trouvé l'espace de la rue Saint-Anne-les-Arts, la première personne qui est venue, parce que c'était un ancien bibliophile, j'ai emmené Buren et je lui ai dit, voilà l'endroit.
Voilà. Alors du coup, un Buren, pour reprendre votre expression, il aimante d'autres grands artistes, un peu comme un Neymar ou un Mbappé, il a envie de jouer avec eux. Oui. Ça, c'est un peu similaire ou pas ? L'idée de... d'être pas loin.
C'est une caution, quelque part. Si t'arrives à accompagner un artiste aussi important, t'as intérêt à être au niveau. Et moi, je me suis démené, donc je m'en occupais personnellement. J'étais constamment à l'écoute. J'ai beaucoup appris grâce à lui, parce que il a une exigence et une vision, un regard sur tellement de choses, sur l'exposition. Il a redéfini l'exposition, donc. Quelque part, et c'est sûr que le fait d'avoir Buren dans ton équipe, dans ta galerie, ça cautionne, ou en tout cas ça peut faire dire à un certain nombre d'autres artistes, peut-être que. Mmh. Donc après, c'est à toi de faire en sorte que tu puisses accueillir ces artistes, et ça a participé. Hein. Après, il faut un peu de chance aussi. Hein. Tu crées et tu provoques des situations avec des commissaires et que... Voilà.
Après, je vais arrêter la comparaison, mais c'est quand on a un gros vestiaire, ça devient compliqué parce qu'il faut accompagner ces grands artistes un peu partout, notamment dans les expositions d'institutions. Zineb Sedira est en ce moment au Jeu de Paume.
D'ailleurs, j'ai visité l'exposition dimanche soir, une exposition formidable.
J'y étais aussi. Latif Aïkchache est à Rome, Daniel Buren en Chine, Hugo Rondinone ici, mais aussi à Helsinki, Douglas Gordon au Danemark. Je m'arrête, mais la liste est très très longue. Comment se partage le galeriste à ce moment-là ? Est-ce que vous devez aller dans ces pays ? Est-ce qu'il faut être là, présent, toujours, accompagné ?
Je suis allé à Helsinki, voir Rondinone. D'ailleurs, il m'avait demandé, pour vous dire qu'est-ce que c'est que le métier de galeriste, je me rappelle d'entendre... J'avais promis à ma femme de ne pas répondre au téléphone pour les artistes en août. J'étais parti avec les enfants, là, on s'est baladé, et Rondinone m'a appelé le 10 août, je crois, pour me demander si j'allais aller au vernissage de Helsinki. Je crois que c'était vers le 15-16 août. J'avais pas envie d'aller à Helsinki le 15-16 août. Donc j'ai dit non, mais j'ai promis que j'irai en septembre. Et je suis allé à Helsinki visiter son exposition dans ce Kunsthalle. Voilà. Donc j'ai revu les, 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 les clowns là, qui avaient été montrés au Palais de Tokyo. Donc il y avait un display dans trois salles. Je suis allé à Aarhus voir Douglas Gordon au Danemark. Il faut y aller à Aarhus, hein. C'est Copenhague et tu reprends un autre avion. Donc tu dois faire en sorte de montrer à ces artistes. Donc aller chez Zineb Sedira, c'est facile parce que c'est ici. Mais tu te dois d'accompagner, de soutenir, de produire parfois ces artistes et faire en sorte que ces artistes puissent dire ou considérer que bah, tu crées, bah, t'es dans l'accompagnement, mais de la valeur ajoutée aussi. Parce que quand t'es avec l'artiste, avec le musée, peut se passer des choses dans le cadre de l'itinérance, dans le cadre d'un problème qui peut survenir. T'es avec eux.
Voilà. Et c'est aussi une façon, alors certains n'en ont pas besoin, mais il y a quand même toujours des pays à conquérir, si je puis dire, mais c'est aussi une façon d'exister à l'étranger, de dire, moi je représente cet artiste, moi Kamel Menor de Paris, mais là je suis là au Danemark, en Chine, au Chili, et il y a peut-être des affaires à faire ensemble. Des affaires.
Des affaires, ouais, moi j'ai pas de
du
complexe
travail.
Par rapport. Ouais, du travail, de toute façon c'est que du travail. C'est à la fin finalement, c'est l'œuvre d'art, elle existe et après il faut qu'elle puisse, elle puisse être montrée donc, dans la meilleure façon, donc c'est par le biais du travail de l'institution ou de la galerie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc moi je voyage beaucoup parce que j'aime ça et j'aime être au contact de. Et ça me permet de mieux comprendre le travail de l'artiste. Je pense que. Même si aujourd'hui il y a une sorte d'art virtuel grâce aux réseaux sociaux, quand tu vas à Aarhus, quand tu vas à Helsinki, tu comprends plus ces sortes de projections de paysage mental que la nostalgie, les sortes de récurrence dans le travail de tel artiste ou l'obsession de l'autre. Et je pense que partager ces moments avec ces artistes te permet d'être encore plus complet dans la promotion de l'artiste à l'audience.
Il y a aussi dans votre parcours, Kamel Menour, des expositions hors normes qui requièrent là beaucoup de travail. Vous avez évoqué Monumenta, il y a les pavillons français de la Biennale de Venise, et pas que français d'ailleurs, israéliens. Aussi avec Ségalit Lando. Là, comment ça se passe? Vous avez dit qu'il y a 40 personnes qui travaillent pour vous dans votre galerie, c'est mobilisation générale, il y a une équipe qui est consacrée seulement à ça. Monumenta, c'était des opérations financièrement quand même compliquées, risquées. Il faut tout faire à la fois.
Ben, on travaille de concert avec l'institution La Force Invitante. Donc on constitue une petite équipe qui va accompagner au niveau de l'ingénierie, de la recherche de fonds, des rapports à l'espace, à l'architecture. Dans le cas de Versailles, les jardins. On apprend tous les jours grâce au projet et faire en sorte que... Parce que finalement, la finalité, c'est que l'œuvre... soit réalisé. Donc des réunions constantes avec le directeur du musée, avec le directeur de le Grand Palais. Moi j'ai visité plusieurs fois quand c'était vide pour comprendre comment les entreprises, parce qu'il y a eu plusieurs entreprises, vous en évoquez Buren, mais il y a eu aussi Anish Kapoor,
Wang Yongping. À chaque fois des projets colossaux.
Monumentaux, hors normes.
C'est le cas de le dire.
J'ai failli laisser ma chemise.
Mais c'est ça alors.
Ah oui, c'était... Finalement, aujourd'hui, il y a une sorte de... Aujourd'hui, il y a un tel déficit au niveau de la culture, en fait. Aujourd'hui, il y a une substitution. C'est-à-dire que la puissance publique, aujourd'hui, n'a pas les moyens de ses désirs. Très difficile de faire en sorte qu'on puisse arriver à additionner et d'ailleurs c'est pour ça que Monumenta, je ne veux pas trop développer, mais que Monumenta s'est arrêté parce que le postulat, comment en fait inviter un artiste aussi important quand en fait la puissance invitante est le ministère de la culture et que
elle n'a pas le budget pour assouvir le désir de l'artiste de rentrer dans cette immense lieu où nous sommes aujourd'hui.
Majestueux, incroyable et sublime. Et
donc là, c'est le galeriste qui doit aller chercher l'argent.
Pas que le galeriste. Le galeriste, entre autres, mais des partenaires financiers, on a tellement cherché, on a tellement essayé d'inventer de l'ingénierie de compétences. Non, mais c'est tellement énorme que finalement, il aurait presque fallu que je mette en veilleuse ma galerie. Parce que finalement, on est une petite PME. On est 40 personnes. Mais on a des galeries à faire vivre. Et quand on a un projet comme ça, par définition, il est hors norme, Monumenta.
Et puis, c'est pas là que vous gagnez de l'argent, c'est de l'image.
Non, non, non. D'abord, je corrige un peu le truc, on perd de l'argent, mais c'est pas grave, parce que quelque part, on peut se refaire autrement sur d'autres expositions, mais là, c'est même pas qu'on a perdu de l'argent, c'est que j'ai failli faire faillite. Il faut savoir que 4 mois avant l'inauguration de Wang Yongping, il a fallu qu'on puisse mutualiser avec une... je vais pas vous donner le nom de... C'était un avionneur. Renforcer le sol, ça coûtait plusieurs centaines de... Bon, bref, c'était très compliqué. Donc, quand on a la charge d'un truc comme ça, aujourd'hui, le métier de galeriste a complètement changé. Moi, il y a 20 ans, j'étais un bouquiniste. J'étais un boutiquier. J'accueillais les gens à la galerie et je pouvais présenter les œuvres. Aujourd'hui, en fait, quand les artistes sont hors les murs, donc il faut les accompagner, il y a toute une économie à créer, à inventer. Il y a une modification de comment envisager l'art aujourd'hui. L'art est en fait dans l'espace public. Et quand on est une galeriste de premier marché comme moi, j'accompagne. Donc parfois, je me dis, oh là là, souvent je mets une sorte de... Je ne peux pas y aller. Hein.
C'est pas passé loin.
Avec non, vraiment, là, c'était ma dernière édition de Monumenta. C'était extrêmement... moi, j'ai passé plusieurs nuits à ne pas dormir. Je me dis, comment va-t-on faire? Parce que même si on a eu tellement de soutien, il y a eu par exemple le convoyeur de containers qui a été extraordinaire, on peut parler donc la CMA CGM qui ont été extraordinaires, qui ont tout installé, parce qu'il y a une ingénierie hein, pour installer des containers, moi je sais pas faire. Voilà, il y a eu en fait une fonderie à Lyon, on a fait travailler français. La fonderie était trop petite. Elle a travaillé avec 5 autres fondeurs. C'était extraordinaire. Donc, on a créé, on a inventé des trucs.
Alors, il y a l'accompagnement d'expertise, de façon, de financier. Il y a un accompagnement qui est un autre type d'accompagnement parce qu'il y a des situations particulières. Je pense à Anish Kapoor, dont l'œuvre avait été vandalisée au château de Versailles. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, quand vous avez appris cette nouvelle?
J'avais appelé Audrey Azoulay.
Il était donc ministre de la Culture. Il faut le redire parce qu'il y en a beaucoup de différents.
À l'époque, c'était Audrey Azoulay qui avait été extrêmement réactive. Et à la minute, elle me rappelait, je lui ai laissé un message en disant que c'était horrible.
Des tags antisémites sur la statue de...
Donc quelque part, ce que ça reflétait comme image, c'était tragique. Et donc j'avais un sentiment extrêmement amer et elle est arrivée, je crois, une heure plus tard. Et très rapidement, elle a montré qu'elle pouvait être disponible. Elle a fait rencontrer... pour montrer de la solidarité à l'artiste, elle a montré... Elle a créé elle a surtout fait en sorte que Kapoor ne pouvait pas dire en lui-même qu'il était laissé dans l'abandon et qu'en fait, il y avait des idiots qui avaient fait ce truc-là. Elle avait fait rencontrer... à l'époque, c'était François Hollande. Kapoor avait été reçu tout de suite, le soir même ou le lendemain, je crois. Et donc, il a tout de suite vu qu'il pouvait être écouté, entendu. Assez rapidement, les tags ont été estompés, en tout cas effacés. Et c'était un moment assez critique, mais qui a été très bien étudié, ou en tout cas très bien... Il y a eu une vraie solution au problème, à cette situation.
Je reviens sur des choses un peu plus concrètes, stratégiques aussi. Il y a trois lieux aujourd'hui à Paris, trois espaces, la Galerie Kamel Menour. Il y a eu une ouverture à Londres. Il n'y en a pas à New York, il n'y en a pas à Shanghai. C'est stratégique, c'est économique, un peu des deux.
Non, ça c'est un parti pris que j'ai eu très très vite. J'ai jamais eu envie d'ouvrir à l'étranger. Je me sens pas capable d'ouvrir. Moi j'ai 5 enfants déjà, donc c'est un peu de travail. Et en fait, cette relation que j'ai dans ma famille me permet en fait d'être la personne que je suis. C'est une vraie vie. Hein. Moi, le soir, quand je rentre chez moi, finalement. Donc, même si je suis en voyage, quand je suis chez moi, quand je suis à Paris, je suis à Paris. Je fais les devoirs comme tout le monde. Et je pense que même si on délègue, c'est quand même très incarné, le métier de galeriste. C'est toujours la personne. Donc, il y en a qui le font très, très bien. D'ailleurs, moi, j'ai plusieurs collègues à Paris qui ont ouvert partout et je trouve ça formidable. Mais ça n'a pas été mon idée. J'ai considéré que finalement, ouvrir à Paris, rive droite, rive gauche, c'est mon étranger, rive droite et gauche. Et en fait, ma petite ponctuation, c'est Londres. Finalement, on est à 2 heures de Paris. Donc, je peux déposer les enfants le matin, prendre l'Eurostar faire un déjeuner et rentrer le soir.
Ouais, ça c'est la banlieue de Paris, enfin. Voilà. Ça se passe, comme on est dans l'actualité, ça se passe comment le Brexit, quand on a une galerie à Londres? On envisage comment?
Ben, on subit, on attend, personne ne sait, moi je ne sais pas non plus, donc les Anglais ne savent pas, je sais qu'il y a des gens qui partent, on ne sait pas trop, quelles seront les prochaines semaines, en étant franc.
Alors il faut bien, évidemment, Kamel Menour, dans cette masterclass France Culture, parler de une chose essentielle du travail de galeriste, c'est la vente. Alors des questions à l'énoncé assez simples, mais les réponses le sont peut-être moins. Comment est-ce qu'on fait venir alors des gens qui vont devenir des acheteurs dans sa galerie? Comment est-ce qu'on noue un lien avec les collectionneurs ou des personnes qui pourraient le devenir? Ça se passe comment?
Finalement, en fait, une galerie, qu'est-ce que c'est? C'est quand même assez formidable. Une galerie, c'est un lieu dont l'entrée est gratuite, déjà. C'est un lieu qui permet en fait de voir de l'art, qui permet en fait... c'est un lieu de rencontre de l'œuvre, de manière matérielle, rencontre de gens. Finalement, c'est des lieux où on a la possibilité d'entendre quelque chose. Et donc, comment accueillir au mieux le public? Moi, j'ai considéré en fait que mon métier, c'était surtout en fait un métier où en fait on transmettait ce qui avait été créé dans un atelier ou dans une entreprise à un public. Donc, pour moi, l'accueil est extrêmement important. Donc, les personnes qui viennent à la galerie sont tout le temps accueillies par la même personne qui ouvre la porte et qui donne une sorte de petite bouclette qu'on fait depuis 7-8 ans, qui permet en fait de définir un peu le contexte du travail de cet artiste, ou en tout cas faire en sorte que l'art ne soit pas aussi... Ce que je disais tout à l'heure, que l'art était un peu complexant quand on ne sait pas. Il y a les sachants. Et j'ai toujours souhaité faire en sorte qu'on puisse désinhiber les gens. Et finalement, aujourd'hui, les gens, pas que chez moi, vont avec beaucoup plus de courage dans une galerie d'art. Parce qu'aujourd'hui, l'art est plus démocratique. Alors, voilà comment, en fait, on constitue une sorte de club de gens qui viennent et qui finalement parfois aiment, parfois n'aiment pas, parfois sont surpris, intrigués et ça se tisse au fur et à mesure.
Et les collectionneurs, parce que c'est une espèce à part, est-ce que vous avez des fichiers entre vous, des trombinoscopes? Vous savez, quand quelqu'un rentre dans votre galerie, même si vous ne l'avez jamais vu en vrai, que c'est un collectionneur qui vient de Moscou, de New York, de Shanghai.
Alors moi, j'ai un grand, grand défaut et on appelle ça, je crois, il y a un article du Monde que j'ai gardé parce que peut être perçu par les gens quand on ne les reconnaît pas comme une sorte de snobisme ou de quelque chose qui serait je ne suis pas suffisamment important. C'est de la prosopagnosie. Donc c'est un article que j'ai tout le temps dans mon petit iPhone. En fait, c'est une pathologie qui fait que c'est encore plus que de la non-physionomie. Mmh. Moi, j'ai un grand défaut, c'est que je ne suis pas physionomiste. Donc parfois, j'ai Marie-Sophie qui vient, sans trombinoscope, elle est extrêmement physionomique, me dire, écoute, voilà, donc j'ai la chance de sourire tout facilement et de pouvoir accueillir facilement aussi. Mais c'est extrêmement difficile de savoir qui sont les gens, parce qu'il y a des gens qui viennent. Donc on accueille de la même manière, on essaie d'être d'humeur égale et de pouvoir promouvoir telle ou telle exposition. Mais si j'avais pu être physionomiste, je serais meilleur galeriste.
On enregistre cette masterclass France Culture à la FIAC. Quelle importance ça a pour vous dans l'année de la galerie Kamel Menour?
C'est un lieu qui est devenu absolument incontournable pour moi-même et pour tous mes confrères et même pour les gens qui viennent aujourd'hui. Moi, j'ai connu la FIAC il y a 20 ans quand la FIAC était complètement moribonde. Il y avait une couverture d'un mensuel, je crois que c'était Beaux-Arts, qui disait... La FIAC est-elle morte? Il y a 20 ans de ça. J'ai participé avec un certain nombre de collègues. J'étais dans le comité de sélection. Et donc, on est allé voir à l'époque avec Jennifer Flay, Martin Bettenaud, Chantal Crouzel et j'en oublie certainement, tous les collègues pour les convaincre de dire que finalement, c'est formidable, Paris. Et je pense que ce déplacement aussi dans ce lieu complètement magique a participé j'ai participé aux premières FIAC. Du temps
Porte
de Versailles et même un peu avant dans l'ancien Quai Branly.
Ah oui.
Donc c'était un peu moins sexy. Aujourd'hui,
le Grand Palais, ça fait toujours son effet.
C'est merveilleux, qu'on soit parisien ou pas parisien, quand on regarde en haut et qu'on voit cette verrière, on se dit c'est extraordinaire. C'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans le sublime.
Ça se prépare combien de temps à l'avance, une FIAC? Comment est-ce qu'on choisit? Quelles œuvres? Quels artistes? Bon, on prend l'exemple de cette FIAC 2019. Vous avez un stand qui, comme d'habitude, d'ailleurs, présente un grand nombre d'artistes. Évidemment, les emplacements sont stratégiques. Comment est-ce que vous avez choisi cela?
On essaie d'arbitrer, de créer. En fait, donc, là, dans le parti pris, c'était de présenter les artistes qui avaient une actualité ou qui ont eu dernièrement une actualité dans les musées. Donc, dans le cas de figure de la précédente foire, c'était à Frise, on a montré Gina Pan dans une exposition personnelle à Frise Master et le jeune, donc une artiste décédée il y a une trentaine d'années. Merveilleuse exposition, formidable. Et dans le Frise classique, on a présenté le jeune artiste Naël Belloufa. Finalement, ça présentait les différents points d'ancrage de la galerie. L'émergence d'artistes merveilleux hein, et les artistes consacrés ou les estates. C'est un petit peu vers lequel, le fil rouge de, dans lequel je suis, une sorte d'ADN. Et dans le cas de figure de la FIAC, on ne se voit pas faire une exposition personnelle parce qu'on créerait trop de susceptibilité par rapport à tous nos artistes. Donc on présente pratiquement tous nos artistes. Alors ça va de, j'évoquais Belloufa, Camille Enrault, Latifa Echarch, Alicia Quad, les jeunes, et alors les artistes très reconnus, Kapoor, Buren, Morlaix.
Léo Fan, une toile extraordinaire de Léo Fan.
Vibrionnante comme ça, merveilleuse. Hein, voilà. D'ailleurs, j'étais avec lui, vous parliez de voyage, j'étais avec lui il y a 3 semaines au Hirshhorn à Washington. Donc, je suis allé pour la veille, je ne pouvais pas être au vernissage, mais la veille, j'étais avec lui pour qu'il puisse sentir son installation, lui dire ce que je pensais. Finalement, on a déjeuné ensemble, on a déjeuné, dîné, et je partais le lendemain. Je n'étais pas au vernissage, mais. Voilà.
Les autres foires, elles ont quelle importance? Vous évoquez Frise à l'instant, Londres, il y a Miami, il y a Bâle. Ça change, ça évolue selon les années. Depuis le temps que vous êtes galeriste, vous avez vu effectivement la FIAC renaître. D'autres se sont peut-être un peu endormis.
La FIAC, effectivement, elle est devenue extrêmement identifiée comme l'une des 2-3 plus grandes foires au monde. Donc c'est formidable pour Paris, pour la place. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que dans le cadre de la FIAC, toutes les institutions, que ce soit le Centre Pompidou, le Musée Art Moderne, le Palais de Tokyo, le Musée Orsay, présentent une programmation particulière par rapport à cet événement. Ça prouve que c'est devenu une sorte de vecteur qui aimante la programmation. Et pour répondre à votre question, nous, on prépare la FIAC 4-5 mois avant, en gardant des œuvres qu'on ne va pas vendre volontairement pour les présenter au public, parce qu'il y a une concentration de visites en 4 jours, on a l'équivalent de 7-8 mois à la galerie, finalement.
Et est-ce qu'on vend beaucoup à la FIAC?
Ouais, et heureusement. Parce que finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de visites dans les galeries. Et ça, c'est un vrai fait, un constat. Les gens, aujourd'hui, est-ce que c'est le syndrome des réseaux sociaux? Les gens, finalement, visitent les expositions.
Sur Instagram.
Alors, est-ce qu'il n'y a rien de mieux que la physicalité de l'œuvre? Mais malgré tout, les gens sont informés par Facebook, Instagram. Et donc, finalement, heureusement qu'il y ait des accélérateurs de particules, comme les foires, qui font que les gens s'accordent une après-midi, une journée, 2 jours, pour se dire, je vais aller chez un tel, et je vais voir l'artiste qui m'intéresse. Et alors, à nous d'être, d'être performants pour faire en sorte que... Voilà.
Oui, mais alors justement, le monde de l'art, il est à la fois très concurrentiel et en même temps, il a une visibilité finalement assez réduite quand on pense au grand public. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que votre galerie a grandi, s'est épanouie pendant 20 ans, depuis 20 ans, continue à grandir alors qu'il y a d'autres galeries qui ouvrent, qui ferment? Est-ce que vous pouvez dire, vous, ce qui fait la différence? C'est cet accompagnement, cet investissement?
Il y a une partie de chance aussi, vraiment, et c'est pas un terme comme ça. Je crois qu'il y a des moments particuliers où tu as des opportunités, des ouvertures, des situations, des contextes qui font que, voilà, j'aurais pu, je vous parlais de l'exemple de Monumenta Wanyamping, pour moi c'était extrêmement dur, hein. C'était les nuits où j'ai passé en me disant comment je vais faire pour me refaire, parce que voilà... Ce qui m'importait, c'est que ça existe. Alors, j'ai tout fait avec l'artiste. D'ailleurs, on était deux, parce que l'artiste a joué. On a vendu des œuvres à des musées. On a vendu des œuvres, et dont 100% allait pour la construction, la production de l'œuvre. Donc, Et ensuite, je vous disais, de la chance, mais aussi beaucoup, beaucoup de travail, des choix, un peu de décision. La constitution d'une vous parliez d'équipe, d'une famille d'artistes qui paraissent cohérentes ou qui correspondent à un esprit ou à un temps, à une photographie d'une époque. Peut-être qu'aujourd'hui, on est, au fil du temps, quelque chose qui existe, en tout cas dans le paysage des galeries à Paris, avec d'autres confrères, mais en tout cas, il y a une particularité de notre programme. On sent quelque chose. Là, on a Christodoulos Panayotou au Musée Orsay, c'est un artiste particulier. Zineb Sedira au Jeu de Paume. Et je pourrais en citer quelques-uns. La sublime installation de Claude Lévesque dans le cadre de la célébration des 350 ans de l'opéra Bastille et Garnier. Donc on accompagne nos artistes, on fait en sorte que ça puisse exister. Et quand ces artistes existent et investissent la place publique, bah Paris redevient ce qu'il a été. Et c'est important. Donc il y a plusieurs galeristes de ma génération qui ont participé à cet éveil, ou en tout cas nous étions peut-être un peu moins éveillés, on était peut-être une belle endormie il y a 20 ans, et aujourd'hui il y a tout un tas de choses, de manifestations qui font que ben, des Américains viennent, des Allemands, des Italiens, des Chinois.
Vous parlez d'équipe d'artistes, et vous parlez tout à l'heure aussi de votre équipe de la galerie, Kamel Menour. Vous pensez que vous êtes quel type de patron ?
En tout cas, je suis un patron qui délègue beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Vous n'avez pas le choix en même temps.
C'est très important. qui aime ses équipes, et c'est pas pour me flatter d'aimer mes équipes, mais j'aime vraiment mes équipes comme ma famille. Donc, qui dit famille, dit de l'amour et parfois de la friction. Donc, on est
là,
une vraie famille.
Là, l'affect, il existe avec l'équipe.
Ouais, je pense. Parce que transpirer au quotidien, finalement, Marie-Sophie, Jessie, Emma, je les vois presque plus que ma femme. Finalement, on passe pratiquement plus de temps avec son équipe. Donc, au bout d'un moment, si on n'aime pas son équipe, c'est pas possible. Autant un artiste, je peux presque ne pas considérer son caractère ou ne pas aimer son caractère, mais on travaille. Un collaborateur, si on l'aime pas, ça marche pas. Parce qu'il y a des moments tellement difficiles et tellement délicats qu'il faut vraiment se regarder entre quatre yeux et se dire qu'il va pouvoir aller à la guerre avec moi et vice-versa.
Ça veut dire qu'il y a une grande exigence du patron Kamel Menour, quand même.
Je suis d'abord très exigeant envers moi-même. Donc, je suis très anxieux, regardez mes ongles. Toujours à me poser des questions sur comment faire en sorte qu'on puisse créer pour les artistes, pour les projets, de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qui va faire qu'un artiste va être plus satisfait en étant passé chez nous que chez un... Donc, pour moi, c'est toujours cette préoccupation de me dire qu'est-ce qui va faire que cet artiste chez nous va aller dans cette institution ou dans cette collection ou dans cette fondation. C'est pas que de la vente, c'est aussi mettre son cerveau au service du travail de l'artiste. Et faire en sorte que ça puisse raconter quelque chose et élever le truc.
Quelques questions encore avant de conclure dans quelques minutes cette masterclass France Culture avec vous, Kamel Menour. Mais si vous croisiez le jeune homme de 20 ans que vous étiez, qui avait envie de devenir galeriste, qu'est-ce que vous auriez envie de lui donner comme conseil ?
Peut-être que, en tout cas, moi, dans mon cas de figure... Je pense que j'ai peut-être perdu 10 ans, parce qu'après ma fac, j'ai fait des études d'économie. Et donc, dans le cadre de mes études d'économie, le petit job de vendeur de litho, pendant 10 ans, j'ai vendu des lithos dans les centres commerciaux. Non pas que ça soit quelque chose que je regrette, mais finalement, quand tu sais que ce vers quoi tu tends, moi, je tendais vers Yvon Lambert. Je fantasmais. D'ailleurs, je m'imaginais à lui servir le café. Et moi, j'étais à Angoulême, à Lyon, à Marseille, dans les centres commerciaux, à vendre des choses qui étaient du niveau de ce que j'étais. Donc, j'ai vraiment perdu 10 ans de ma vie à faire quelque chose qui était alimentaire, mais qui me permettait d'être un marchepied vers ce qui était ma projection. Donc, peut-être que je dirais à ce Kamel, qui aurait 20 ans, donc j'ai 54 ans, peut-être qu'il aurait fallu que j'aie eu un peu plus de culot et que j'aille me vendre auprès d'Yvon Lambert en lui disant qu'il me prenne comme stagiaire et que je puisse lui nettoyer sa galerie, comme une sorte de commis pour comprendre ce métier. Parce que c'est très important, l'expérience, comprendre un petit peu qu'est-ce qu'être galeriste. Moi, j'ai appris de manière empirique. Là, je vous disais que j'avais ouvert sans nom. Je n'ai pas été l'assistant ou le collaborateur d'un autre galeriste. Moi, j'ai appris sans savoir, sans comprendre, en regardant. Moi, j'ai appris en faisant plein de conneries, plein d'erreurs, parce qu'on apprend comme ça. Mais il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit « il faut faire comme ça, il faut faire comme ça ». Mais j'aurais pu regarder, j'aurais pu côtoyer, mais ce n'était pas mon cas.
Mais une fois que vous avez ouvert la galerie, que vous avez commencé à voir le parcours que vous avez eu, comme ça fait plusieurs fois que vous citez Yvon Lambert, et comme je vous comprends, est-ce que vous êtes rapproché de lui? Est-ce que vous avez essayé de lui poser des questions? Est-ce que vous avez essayé de demander des conseils à lui ou à d'autres?
Non, ben, il y a une heure de ça, il est passé sur le stand, je l'ai embrassé comme du bon pain. C'est vraiment mon modèle absolu. À mes 20 ans, il était là, donc j'étais très heureux de partager
les 20 ans de la galerie.
Oui.
Ce que vous dites à mes 20 ans.
Mes 20 ans, pardon, effectivement. Aux 20 ans, on a fait une fête avec un collègue, d'ailleurs avec Créo. Nous avions fêté nos 10 ans il y a 10 ans et on a fêté nos 20 ans ensemble il y a 2-3 semaines. Et donc, Yvon était là. Et j'étais très heureux parce que pour moi, c'était mon modèle absolu. Et je me disais, j'aimerais tellement un jour mieux comprendre sa programmation, sa liste d'artistes. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au fur et à mesure, un certain nombre d'artistes de Sagari nous ont rejoints. Donc non pas que j'ai refait Yvon Lambert, absolument pas, mais quelque part peut-être qu'eux ont considéré qu'il y avait un peu de l'esprit d'Yvon Lambert. Mmh.
Deux questions encore, Kamel Menour, peut-être un peu étonnante, mais on fait cette collection d'émissions de masterclass avec des artistes. Donc est-ce que, j'imagine un peu votre réponse, mais est-ce que être galeriste est une forme d'art?
Ouais, je pense que peut-être que c'est une forme d'art, mais en tout cas, nous sommes malgré tout les sortes de courroies, ou en tout cas, j'aime cette expression de dire que nous sommes les ouvriers de l'ombre. Finalement, pour magnifier l'art, le galeriste est nécessaire pour faire en sorte que la résonance de l'œuvre, qu'elle soit performative, qu'elle soit tangible, une sculpture, une peinture, une vidéo, si le galeriste n'entend pas cette musique, il peut complètement détruire une œuvre. Donc en ça, ça peut être considéré comme une forme d'art.
Et c'est une question qu'on pose à tous les artistes pour conclure ces masterclass. Kamel Menour, est-ce que la question de la postérité se pose? Alors là, dans votre cas, est-ce que la question de la postérité de la galerie Kamel Menour se pose? Est-ce que vous aimeriez que cette galerie et ce nom vous survivent?
Alors moi, j'ai 5 enfants. J'ai un grand garçon qui a 17 ans, qui passe le bac cette année. D'abord, il faudra qu'il passe le bac, qu'il puisse avoir le bac. Et ensuite, on verra s'il aime l'art comme son père aimait l'art. Qu'aujourd'hui, c'est un terrain de jeu. Il vient à la galerie et il côtoie les artistes. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre de... quelque chose de ludique, presque. Mais je serais très, très heureux.
Oh, si c'est pas lui, il y a les 4 autres.
Mais peut-être que c'est peut-être lui qui dessine les fleurs.
Ah, voilà. Vous l'avez repéré?
Peut-être.
Et cette galerie continue, Kamel Menour et fils.
J'aime bien ça, ça fait un peu auvergnat, mais j'aime bien cette idée, tu vois, et fils. Ça fait cafetier.
Merci beaucoup, Kamel Menour.
Merci.
C'était la masterclass de Kamel Menour avec Arnaud Laporte. Coordination Arnaud Laporte. Prise de son Alexandre James, Romain Lucquins, attaché de production Pascaline Bonnet, réalisation Clotilde Pivin.